semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, bienvenue dans une semaine d'actualité et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, nous allons revenir avec la rédaction sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est politiste, directeur de recherche au Centre Population et Développement de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement à Paris, également chercheur associé au Chatham House de Londres. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos.
Bonjour.
Spécialiste de l'Afrique et des courants contestataires, on vous a déjà entendu dans cette émission commenter l'actualité de la secte nigériane Boko Haram. Votre actualité cette fois est la parution du livre « Pour un développement humanitaire » publié aux éditions IRD avec ce sous-titre « Les ONG à l'épreuve des critiques ». Marc-Antoine Pérouse de Monclos, y a-t-il vraiment besoin de clarification à propos des ONG et si oui, à quel niveau ?
Oui, sur les terrains de conflits ou de pays très pauvres dans lesquels je travaille, on ne peut pas ne pas croiser les ONG. Elles sont là, elles sont présentes, elles jouent un rôle parfois très très important et même structurant. Elles peuvent jouer, être un acteur même économique, y compris dans les zones de guerre. Donc elles font partie, si vous voulez, du paysage. Et il existe effectivement une critique qui est en train d'évoluer. Alors, les critiques contre le monde des acteurs de la solidarité internationale ne sont pas du tout nouvelles. Hein. Dès le 19e siècle, on avait comme ça des critiques sur les galas de bienfaisance en France, sur le fait que les ONG, si je peux utiliser ce terme, hein, qui est né surtout en fait en 1945, dépensaient trop d'argent pour leur technostructure plutôt que de le donner aux pauvres. Ça, c'est des critiques qui sont récurrentes. Mais aujourd'hui, on voit que la critique, alors à la fois elle a un ressort nationaliste parfois, contre l'ingérence étrangère, mais également c'est une critique qui s'articule sur le mode de gestion des ONG, leur professionnalisation, c'est-à-dire que les ONG deviennent de plus en plus des entreprises, donc elles doivent gérer des salaires, les salaires des employés africains, par exemple, donc vous pouvez avoir des grèves, enfin bref, vous avez des soucis qui relèvent finalement du management dans l'entreprise, et du coup, cette critique, si vous voulez, en quelque sorte, elle se modernise et elle prend de l'ampleur à mesure aussi que le phénomène ONG devient de plus en plus visible dans l'espace médiatique.
Oui, critique justifie en quelque sorte.
Alors, la question pour moi, c'est pas tant un livre qui critique les ONG, c'est un livre d'analyse sur l'évolution de la critique sur les ONG. C'est ça qui m'intéressait, puisqu'encore une fois, cette critique, elle est en fait assez ancienne. C'est d'ailleurs assez naturel qu'on se pose des questions sur l'efficacité des ONG dites humanitaires ou bien de développement, parce que ça, c'est aussi un autre débat récurrent, là aussi fort ancien. Est-ce que l'humanitaire, ça doit être que de l'urgence? Est-ce qu'on doit faire de l'assistanat ou plutôt aider les gens à se prendre en main? Là aussi, ce débat n'est absolument pas tranché, donc il réapparaît à chaque fois sous de nouvelles formes, mais c'est vraiment un fondement de la critique qui va de pair avec la construction du phénomène ONG.
Alors nous aurons l'occasion évidemment d'y revenir tout au long de cette émission, mais tout de suite, la principale information de la semaine, les attentats meurtriers qui ont frappé Bruxelles. La capitale de la Belgique a été le théâtre mardi de plusieurs attaques terroristes coordonnées. Les premières ont eu lieu dans le hall d'embarquement de l'aéroport international. Témoignage d'Anthony, un employé de l'aéroport présent à ce moment-là.
Moi et mon collègue, on commençait à 8h ce matin. On sortait du stand-by, donc aussi le ticketing de Swissport. Là, 20 mètres après moi, j'entendais une explosion. On se retournait, je regardais, je voyais alors plein de papiers qui s'envolaient. Donc là, c'était clair que c'était une bombe, mais il y avait mes oreilles qui étaient bouchées et tout. Très violent, oui. Et tout le monde commençait à courir à gauche, à droite. Et donc moi, je suis sauté sur le tapis de bagages. Je suis allé en bas. Mon collègue a couru tout droit vers le Starbucks. Là, il y avait une deuxième explosion. Mon collègue, il a vu donc un militaire qui tirait quelqu'un qui était blessé. Ou décédé, ça on savait pas. Quelqu'un avec une jambe en sang. Moi j'étais caché, alors j'ai décidé de m'enfuir quand même. On a pris un style de toboggan en fait pour les bagages, on a descendu. Et alors on a vu quelqu'un d'aider à gel et il nous a emmené vers la sortie.
Et quelques minutes après ce premier attentat, une autre explosion se faisait entendre dans une station de métro proche du siège de l'Union européenne à Maelbeek. Elga Abusan y était.
J'étais dans le métro, dans la rame, et on allait partir. Je ne suis plus sûre si on était vraiment déjà parti ou pas. Et soudain, il y avait une énorme explosion et le métro s'est arrêté. On était coincés dans la rame et il y avait plein de fumée, de flammes, etc. Et après, quelqu'un a pu forcer une petite fenêtre et tout le monde, on n'était pas nombreux dans notre rame et on a pu s'échapper par là et on a dû sauter par cette petite fenêtre et après on a On a pu s'échapper par le perron et par le quai, et après vers la sortie du métro.
Dès mercredi, puis jeudi, le procureur du roi faisait état d'avancées significatives dans l'enquête, comme le soulignait l'un des correspondants de RFI à Bruxelles, Pierre Olivier.
L'information a été confirmée par la police. Cela porte donc à deux le nombre de suspects en fuite directement liés à ces attentats. Le premier, vous le savez, c'est le troisième homme de l'aéroport qui a disparu sans faire exploser sa bombe. Et désormais, ce second suspect, identifié sur des images de vidéosurveillance, on le voit discuter avec Khalid El-Bakraoui, le kamikaze du métro, dans les couloirs, mais il ne rentre pas dans la rame et fait demi-tour lorsque le métro démarre. Pour le moment, la police ne peut pas ou ne veut pas dévoiler son identité. Il en est d'ailleurs toujours de même pour l'homme de l'aéroport, lui aussi activement recherché. Car bien sûr, la crainte des enquêteurs, c'est que se sentant pris au piège, ces deux suspects dans la nature ne tentent le tout pour le tout en commettant un autre attentat. Concernant les kamikazes, ils ont tous été identifiés, deux à l'aéroport, d'abord Najim Lachraoui, dont l'ADN a pu confirmer qu'il s'agissait bien de lui. Pour rappel, cet homme de 24 ans est aussi suspecté d'avoir participé aux attentats de Paris. Et puis, Ibrahim El-Bakraoui, déjà connu pour grand banditisme, avec son frère Khalid. Son frère, identifié comme le kamikaze du métro de Maelbeek. Enfin, un personnage central de cette cellule terroriste est toujours recherché. Il aurait aussi participé aux attentats de Paris, mais Mohamed Abrini reste à ce jour introuvable.
Et notre confrère de RFI, David Thompson, spécialiste des mouvements islamistes radicaux, et notamment d'Al-Qaïda et de l'État islamique, nous explique pourquoi Bruxelles, comme Paris, est une cible privilégiée de ces organisations.
Les pays les plus visés par des attentats de ce type sont les pays, d'une part, qui participent activement à la coalition internationale et qui comptent un certain nombre de ressortissants dans les rangs de l'État islamique. La Belgique est en première ligne, évidemment, pour la simple et bonne raison que c'est le pays qui compte proportionnellement à sa population le plus de ressortissants au sein de l'EI, mais pas seulement de l'EI, au sein aussi de notamment la branche syrienne d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, en Europe. La Belgique, on le rappelle toujours également, c'est un vieux foyer djihadiste. C'est là que, dans les années 90, étaient basées de nombreuses cellules, notamment tunisiennes, le groupe de combat tunisien, qui, ce n'est pas rien, a mené l'assassinat du commandant Massoud, qui a déclenché, on peut dire, le djihad global à l'époque du 11 septembre. C'était deux jours avant les attentats du 11 septembre. Donc c'est quelque chose d'ancien là-bas.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, au-delà de la Belgique, on vient de l'entendre, qu'est-ce qui est visé par ces, finalement, ennemis de l'intérieur ?
Il y a aussi des attentats extrêmement symboliques pour montrer qu'ils peuvent frapper partout. Ça, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup de groupes terroristes, qu'ils soient d'ailleurs islamistes ou non. Et il faut attaquer des valeurs aussi, hein, clairement. Donc là, il s'agit de créer un sentiment de panique, de donner l'impression que l'État islamique peut frapper n'importe où et n'importe quand. Et le fait que les commandos qui aient mené tant les attentats du 13 novembre à Paris que ceux de Bruxelles soient étroitement imbriqués laisse à penser qu'effectivement, il y a des cellules dormantes un peu partout en Europe. Donc là, le facteur peur joue à plein. Et c'est exactement ce que recherchent ces groupes.
Le fait qu'il y ait également d'autres attentats du même genre en Afrique montre que on est aussi sur ces mêmes thématiques. On voudrait qu'en Afrique les Occidentaux s'en aillent, par exemple.
Alors oui, en même temps, si vous voulez, les modes opératoires en Afrique. Alors on a aussi des attentats suicides, des attentats à la voiture
Radisson,
piégée, contre des établissements touristiques en Côte d'Ivoire, des hôtels, etc. Mais au-delà de ça, ce qu'on a tendance quand même à oublier, et c'est un phénomène qui n'existe pas du tout là en Europe, c'est qu'on a aussi des groupes djihadistes qui sont des guérillas, c'est-à-dire qui tiennent du terrain, et puis qui vont attaquer des casernes militaires avec 100 hommes, alors que ce soit en Somalie avec les Shebab, que ce soit dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, que ce soit jusqu'à l'opération Serval en 2013 dans le nord du Mali avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc si vous voulez, ça va au-delà simplement de l'attentat. Il y a aussi des actions militaires qui sont menées. Ça, on a un petit peu tendance à l'oublier quand on applique un peu les paradigmes d'analyse qu'on veut pour essayer de décrypter les situations en Europe, en Belgique ou en France, et qu'on veut essayer de reproduire ce genre de cadre d'analyse sur l'Afrique, ça fonctionne beaucoup moins bien, parce que bon, Internet joue pas le même rôle, les communications sont difficiles, et les modes de recrutement de ces groupes djihadistes ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi, peut-être à l'exception des Shabab en Somalie, qui s'appuient aussi sur une diaspora somalienne de migrants extrêmement importante dans le monde, mais pour ce qui est du Nord-Mali ou du Nigeria avec Boko Haram, justement, on n'a pas de présence de banlieusards qui viendraient, je sais pas, de Paris ou de Londres ou de Bruxelles. Ceci Russie n'existe pas. Donc il n'y a pas cette dimension internationale dans le recrutement qu'il peut y avoir aujourd'hui en Irak, en Syrie ou en Europe.
Rappelons que le bilan encore provisoire des attentats de Bruxelles est de plus de 30 morts et de près de 300 blessés, d'au moins 40 nationalités différentes. Plus d'informations évidemment dans nos journaux aux heures et aux demi-heures.
Une semaine d'actualité.
Ces attentats à Bruxelles ont fait passer au second plan, évidemment, la visite historique d'un président américain à Cuba. Barack Obama était arrivé dimanche à La Havane pour rendre irréversible le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Et il avait commencé par une visite de la vieille ville en famille, visite suivie par Roman Baraski.
C'était le premier déplacement de Barack Obama dans La Havane. Le président américain, à peine arrivé à Cuba et à la veille du début de sa visite officielle, a tenu à faire une balade dans le quartier historique de la capitale cubaine. Malgré un orage tropical, les touristes et les Cubains sont venus voir de leurs propres yeux l'homme politique considéré ici comme le plus populaire du pays. Pour Daniel, père de famille, pour rien au monde, il n'aurait manqué ça.
Moi, je vis aussi dans le vieil Havane et je suis ici pour voir Barack Obama. On veut le voir, on veut le voir. Pour moi, c'est un homme très courageux, qui plus est en venant ici, dans notre pays, en défiant tous les obstacles. J'ai vu son arrivée à la télévision et j'ai ressenti de la peine lorsque je l'ai vu descendre et qu'il n'y avait pas son homologue pour l'accueillir.
À côté de Daniel, sa fille Sori est toute excitée à l'idée d'assister à un moment qui restera gravé dans sa mémoire.
C'est un moment historique. Il fallait être ici pour recevoir comme il se doit le président Obama. Pour lui démontrer l'hospitalité et la courtoisie du peuple cubain. Ici, il n'y a pas grand monde, mais s'il ne faisait pas ce temps, il y aurait énormément de gens pour l'accueillir, parce que c'est un événement très attendu. Moi, je suis de la génération qui verra les changements. On attend des changements et on espère tous qu'avec cette visite, il va y avoir des changements.
Barack Obama, toujours accompagné par sa femme Michelle et ses deux filles, s'est rendu dans la cathédrale avant de visiter le musée de la ville. Après ce petit tour dans le centre historique de La Havane, Barack Obama et toute sa famille sont allés dîner au restaurant San Cristobal pour prendre des forces avant que ne débute une visite qui restera à jamais dans les livres d'histoire.
Et si les deux parties, américaines et cubaines, n'ont pas manqué d'afficher leurs divergences, notamment dans le domaine du respect des droits de l'homme et aussi de la liberté de la presse, le séjour de Barack Obama s'est achevé dans les tribunes d'un stade de baseball où le président américain a assisté à un match américano-cubain aux côtés de son homologue cubain, Raúl Castro. Le scandale Petrobras au Brésil n'en finit pas d'éclabousser la classe politique. Des perquisitions et arrestations ont encore eu lieu cette semaine. L'étau se resserre autour de la présidente Dilma Rousseff, sous le coup d'une procédure de destitution et qui se défend.
Je n'ai commis aucun crime prévu par la Constitution et les lois qui justifieraient l'interruption de mon mandat. Ce qui est en train de se passer, c'est un coup d'État contre la démocratie. Je ne démissionnerai jamais.
À noter que l'émission Géopolitique Le Débat de ce soir est consacrée au Brésil, au bord du gouffre, en raison de ce scandale Petrobras.
7 jours dans le monde.
La pilote ukrainienne Nadia Savchenko a été condamnée à 22 ans de prison par un tribunal russe. Elle a été reconnue coupable de complicité dans le meurtre de deux journalistes russes tués en juin 2014 dans l'est de l'Ukraine. Les 6 mois de procès de la pilote se sont achevés dans la confusion la plus totale, comme nous le rapporte l'envoyé spécial permanent de RFI à Moscou, Muriel Pomponne.
Elle ne fera pas appel. 6 mois de procès, 2 grèves de la faim et 16 heures de lecture du verdict ne sont pas venus à bout de la détermination de Nadia Savchenko. Quelques mots bien sentis à l'égard des juges et un « gloire à l'Ukraine » avant d'être emmenée par les gardes à la fin du procès. Peu avant, couvrant la voix du juge qui venait de la déclarer coupable, elle avait entonné un chant populaire en modifiant les paroles. « Vous allez vous-même pourrir en prison », avait-elle chanté, tandis que le juge ordonnait une suspension d'audience. Jusqu'au bout, Nadia Savchenko a voulu montrer au juge qu'elle considérait le procès comme une farce politique jouée d'avance. Face à une opinion russe convaincue de sa culpabilité, toute sa stratégie de défense a été de mettre en avant la dimension symbolique de son procès. Elle, symbole de l'Ukraine jusque dans la façon de se vêtir, ne faiblit pas face à la toute-puissance de la Russie. Et aujourd'hui, elle est ainsi devenue un enjeu diplomatique entre les deux pays.
Autre procès, celui de l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, a été condamné par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à 40 ans de prison pour génocide. Et puis le monde du football en deuil. Johan Cruyff est mort jeudi à l'âge de 68 ans d'un cancer au poumon. Il avait révolutionné la pratique de ce sport dans les années 70, aussi bien avec son club de l'Ajax Amsterdam qu'avec l'équipe nationale des Pays-Bas, avant de rejoindre Barcelone où il vivait depuis 1973 et où il est mort. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, la visite de Barack Obama est extrêmement symbolique. C'est la première fois qu'un président américain se balade en famille, finalement, dans les rues de La Havane depuis évidemment très longtemps.
Oui, elle est symbolique du fait qu'on enterre la guerre froide, qu'a priori quand même il va y avoir un rapprochement effectif, et y compris économique, entre Cuba et les États-Unis. Donc ça marque aussi la fin d'une époque, hein, ces quelques pays du Jurassic Park mondial, Corée du Nord, qui appartiennent vraiment à une autre époque révolue. Puis c'est aussi un symbole, parce que voilà, Barack Obama est noir, il est président des États-Unis, et on sait que Cuba connaît une population d'origine africaine importante aussi. Je crois que c'est peut-être aussi une des raisons de sa popularité à Cuba. On y voit à la fois un symbole de réussite démocratique et puis également un espoir de croissance économique. Donc le symbole a plusieurs dimensions de ce point de vue.
Alors, parlons maintenant de votre livre consacré aux organisations non gouvernementales. Les ONG sont-elles l'expression véritablement de la puissance des États dits du Nord ?
Alors, c'est une des critiques récurrentes, effectivement, d'y voir le cheval de Troie de l'impérialisme occidental, ce qu'on appelle le soft power, vous voyez, le fait que vous auriez des organisations qui servent en fait à distiller des valeurs démocratiques, le respect des femmes, empowerment, il y a beaucoup de mots-clés comme ça qui sont utilisés, notamment dans des pays en développement comme en Afrique. Et donc, effectivement, il y a toujours cette accusation que, finalement, les ONG sont les relais d'une diplomatie extérieure. Or, il se trouve quand même que le monde des ONG est extrêmement divers. C'est-à-dire que vous avez des ONG qui sont très très largement financées par leur état de siège, par leur pays de siège, et qui effectivement, du coup, sont quand même un peu des sous-traitants, qui peuvent devenir plus facilement les sous-traitants d'une politique extérieure, mais il y en avait d'autres, au contraire, qui sont très attachés à leur indépendance. Donc déjà, peut-être une première leçon, c'est de ne pas faire d'amalgame. Maintenant, derrière ça, il y a effectivement un autre enjeu, qui est de voir l'impact politique de ces ONG dans des états fragiles. Et là, il y a énormément de théories qui se contredisent les unes et les autres. Hein. Il y en a une qui dit finalement les ONG déconstruisent l'État parce qu'elles vont fournir des services publics-privés, si on peut dire. Donc elles dégagent l'État de ses fonctions de ses fonctions sociales. En plus de ça, comme elles payent mieux les employés locaux que dans la fonction publique, notamment en Afrique, du coup elles vont attirer les meilleurs éléments de la fonction publique et donc elles vont finalement véhiculer un modèle libéral qui vise à dessaisir l'État de ses prérogatives sociales. Et puis face à ça, vous avez une critique complètement inverse qui dit qu'au contraire, les ONG construisent l'État, c'est-à-dire que non seulement elles permettent de l'améliorer dans sa gouvernance, en veillant au respect des droits de l'homme, en surveillant les élections, etc., mais aussi parce que justement, en déchargeant l'État de ses obligations sociales, elles permettent aux États, à des États fragiles, de se reconcentrer sur leurs fonctions régaliennes, y compris fonctions de sécurité, voire d'oppression, hein, ce qui peut avoir aussi un enjeu, et là on rebondit d'ailleurs sur une autre critique, qui est que finalement les ONG peuvent se retrouver partie prenante de jeux stratégiques qui confortent des dictatures au pouvoir, en les dégageant de leur responsabilité sociale, finalement.
Mais est-ce que les ONG elles-mêmes se voient comme neutres ?
Alors, il y a un idéal, notamment au niveau des volontaires, ceux qui s'engagent pour la première fois, où ils peuvent imaginer être effectivement indépendants et neutres. La dure réalité, là il faut faire de la réelle politique, c'est que les ONG sont des acteurs économiques. Alors ça déplaît souvent à des gens qui disent « Ah ben non, nous on est à but non lucratif, etc. » Mais je suis désolé, il faut bien qu'à un moment il y ait un excédent de trésorerie, sinon vous mettez la clé sous la porte. Donc les ONG dégagent du profit. Et puis il y a aussi un élément politique, c'est-à-dire que les acteurs ONG, si vous voulez, ne sont pas perçus comme neutres sur le terrain.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, nous allons marquer une petite pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste, directeur de recherche au Centre Population et Développement de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement à Paris, également chercheur associé au Chatham House de Londres. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité, mais aussi parler de votre dernier livre, Pour un développement humanitaire, consacré aux ONG, les organisations non gouvernementales. On les appelle aussi des ASI, des associations de solidarité internationale. Alors, ce principe est-il récent? On pense notamment à la Croix-Rouge, qui est plus que centenaire. Y en avait-il avant? Vous évoquez notamment brièvement dans votre livre la date de 1870, autrement dit la guerre entre la France et la Prusse. Il y avait déjà des ONG à cette époque?
Oui, il y avait déjà des ONG comme l'Union chrétienne des jeunes gens, qui est plus connue sous son acronyme anglais de YMCA, acronyme qui a été popularisé par la fameuse chanson des Village People. Et puis sinon, vous aviez l'Armée du Salut, et qui intervenait à l'international. Donc les AIC sont, si vous voulez, les associations de solidarité internationale, sont un sous-groupe du monde des ONG. Vous pouvez avoir des ONG locales qui ne travaillent que localement. Et puis, comme il y a beaucoup de difficultés à définir précisément ce qu'est une ONG, souvent on rebondit sur une association, en général. Alors là, à ce moment-là, on englobe un petit peu tout dans le vocable ONG. Donc là, c'est un livre qui parle effectivement d'associations qui ont un but non lucratif, en tout cas dans leur charte, et qui travaillent à l'étranger, qui travaillent dans un autre pays. Donc ça resserre quand même un petit peu, parce que sinon, là, on parle d'une centaine de milliers d'acteurs, hein, d'organisations, donc c'est quand même assez vaste.
Ces ASI sont-elles même l'objet de ces critiques dont vous parlez et que vous analysez?
Voilà, c'est plutôt elles qui sont touchées par ces critiques, parce que certaines d'entre elles sont extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'il faut quand même voir, je sais pas, une ONG comme le groupe Oxfam, moi j'appelle ça un groupe parce qu'ils ont 13 sections nationales à travers le monde, ils ont un budget qui dépasse les, excusez-moi, 5 milliards de dollars par an. Alors vous le mettez en relation avec la richesse nationale du Burundi qui plafonne à 1 milliard, vous le mettez en relation avec Monsanto qui doit avoir un chiffre d'affaires à 1 milliard de dollars, excusez-moi, mais on n'est pas dans la même cour de récréation là. On a certains acteurs, pas tous, hein, parce qu'il y a encore une vision de l'ONG petite, plus ou moins amateur, avec des volontaires, des bénévoles même. Il y a ça, mais il y a aussi des mastodontes. Donc Oxfam, CARE, Médecins Sans Frontières aussi, hein, est une organisation qui a plusieurs sections opérationnelles à travers le monde et qui dégage des budgets qui dépassent le milliard de dollars.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur l'actualité en France et d'abord, évidemment, la réaction de François Hollande après les attentats de Bruxelles. Le président français a exprimé compassion, solidarité et fermeté.
Le terrorisme a frappé la Belgique, mais c'était l'Europe qui était visée, et c'est tout le monde qui est concerné. Nous devons prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la menace terroriste. Ces attaques viennent après d'autres. Paris a été particulièrement ciblé l'année dernière, au mois de janvier. Au mois de novembre, d'autres continents ont été touchés, je pense à l'Afrique. Mais nous sommes devant une menace globale qui exige d'y répondre globalement. La France et la Belgique sont liées par l'horreur que nous venons une fois encore de partager. Et j'ai assuré au gouvernement belge tout le soutien indispensable pour que nous puissions apporter tous les moyens qui seront nécessaires.
Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a indiqué jeudi soir qu'un Français impliqué à haut niveau dans un réseau terroriste avait été interpellé le matin même à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Cet homme, jugé extrêmement dangereux, condamné par contumace en Belgique, avec Abdelhamid Abaoud, faisait l'objet d'une fiche de recherche diffusée à tous les services de police. Et dans la soirée et la nuit qui ont suivi, des perquisitions ont été menées dans un immeuble d'Argenteuil, au nord-ouest de Paris.
Sept jours en France.
Sur le plan intérieur, la Cour de cassation a validé mardi la quasi-totalité des écoutes entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, ouvrant la voie à un possible procès de l'ancien chef de l'État. Mis en examen pour corruption et trafic d'influence, pour avoir voulu percer le secret d'une procédure à l'aide d'un haut magistrat, Nicolas Sarkozy contestait la légalité de ses écoutes téléphoniques. Mais pour les magistrats de la Cour de cassation, leur contenu révèle, je cite, « des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale ». Franck Alexandre.
La validation des écoutes, c'était bien sûr le scénario redouté par la défense de Nicolas Sarkozy. Et pour l'ancien président, le cauchemar est bien devenu une réalité. Car à l'exception d'un échange téléphonique entre son avocat et le bâtonnier de Paris, tous les enregistrements de la procédure ont été validés par la plus haute juridiction française. Ces fameuses conversations qui révèlent clairement une tentative de corruption d'un haut magistrat de la Cour de cassation en échange d'informations confidentielles. Nicolas Sarkozy, se croyant à l'abri d'écoutes judiciaires grâce à une ligne ouverte sous le nom d'emprunt de Paul Bismuth, s'est donc retrouvé piégé comme un vulgaire délinquant et la Cour de cassation a légitimé la méthode utilisée par les juges d'instruction. De toutes les affaires Sarkozy, celle-ci est sans aucun doute la plus dangereuse pour l'ancien chef de l'État, car il est en première ligne, c'est sa voix que l'on entend dans les écoutes, et en matière de trafic d'influence, ce n'est pas le résultat qui compte, mais bien l'intention. Il appartient désormais au juge de décider la suite à donner à cette procédure, mais techniquement, un procès pourrait se tenir l'an prochain, le pire des timings pour Nicolas Sarkozy.
Et sur le plan purement politique, le président du Parti Les Républicains a subi un autre revers puisque les centristes de l'UDI ont annoncé qu'ils ne participeront pas à la primaire en novembre, qui doit désigner le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Julien Chavannes a assisté au congrès du Parti centriste, désireux de marquer sa différence.
S'émanciper, mais jusqu'où? La question agite le millier de militants venus au congrès et ils sont partagés. Il y a le camp des radicaux, ceux qui pensent qu'il faut maintenant rompre avec une droite qui s'est éloignée des valeurs centristes. Léo André est militant à Lyon.
Ils s'éloignent de plus en plus de nos valeurs. Tout ce que montrent les Républicains finalement sur le paysage médiatique est loin de nos valeurs. Et du coup, nous, je pense qu'on doit faire notre chemin de notre côté pour véhiculer justement nos valeurs à nous.
Pour Prisca Millet, élu municipal dans l'Est de la France, son parti doit sortir de l'ombre des Républicains.
Il est vraiment temps qu'on marque notre indépendance. Aujourd'hui, on a vraiment un déficit de notoriété et tant qu'on ne partira pas sous notre bannière, ça ne pourra pas évoluer.
Dans l'autre camp, on est plus prudent. Se lancer en solo pour 2017, c'est risquer un petit score enchaîné avec des législatives dangereuses. C'est ce que pense Anthony.
Il me semble qu'un accord avec les Républicains est totalement indispensable pour espérer avoir une stratégie pour les présidentielles et législatives.
Prisca Millet, peut-être la solution, regarder ailleurs qu'à droite.
On a trop le regard tourné à droite, effectivement, et on a des alliés naturels, plus naturels en tout cas, qui sont le MoDem. Je pense qu'on a tout à gagner, effectivement, si on parle d'indépendance du centre, à s'allier avec eux.
Le MoDem, aucun ténor n'en a parlé ce dimanche. La direction de l'UDI espère plutôt que le bras de fer suffira à imposer ses conditions.
Une semaine d'actualité.
L'actualité en Afrique maintenant. Et on n'a pas fini d'en parler au Bénin. Le coup de téléphone donné dans la nuit de lundi à mardi par Lionel Zinsou à Patrice Talon pour le féliciter avant même les résultats officiels de la présidentielle en a surpris plus d'un, à commencer par le vainqueur lui-même qui a salué le fair play du perdant. Il est vrai que la victoire de l'homme d'affaires sur le Premier ministre sortant est très nette, Patrice Talon ayant obtenu un très large soutien de ses concurrents éliminés au premier tour. Du coup, l'enjeu n'en est que plus important, d'autant que la passation de pouvoir aura lieu dans à peine plus d'une semaine, le 6 avril. Commentaire de Karine Franck depuis Cotonou.
Première question, comment va-t-il gérer le pouvoir? Élu grâce au soutien d'un nombre pléthorique de candidats, le nouveau président va devoir former son gouvernement sans laisser trop de monde au bord de la route, mais il parle déjà d'un gouvernement restreint. Autre question connexe, quels seront ses rapports avec Sébastien Ajavon, le patron des patrons? Fort de sa troisième place, l'homme d'affaires a pris de l'importance et ses ambitions demeurent intactes pour l'avenir selon son entourage. Va-t-il laisser grandir un futur adversaire potentiel? Y a-t-il eu un accord entre les deux hommes? Autre difficulté non des moindres, telle que la situation se présente, le nouveau chef de l'État ne disposera pas d'une majorité à l'Assemblée nationale puisque les grands partis politiques, les FCBE, le PRD et l'ARB ont soutenu Lionel Zinsou. Or, le chef de l'État n'a pas le pouvoir de dissolution. La majorité va se recomposer d'elle-même, affirme un proche. Patrice Talon n'est pas un politicien, mais il connaît pour l'avoir côtoyé de très près depuis de longues années la vie politique dans son pays, explique un de ses porte-parole, Joseph Jobenu. C'est sa force, ce ne sera pas sa faiblesse.
Second tour également au Niger entre le président sortant Mahamadou Issoufou et le candidat de l'opposition, Ama Amadou. En l'absence de ce dernier, hospitalisé à Paris après avoir passé 4 mois en prison sous l'accusation de trafic d'enfants, l'opposition avait appelé au boycott et de fait, la participation a été beaucoup plus faible qu'au premier tour. Le président sortant a été réélu largement avec 92,4% des voix. Au Congo-Brazzaville, on a voté pour un premier tour présidentiel quasiment À huis clos, il était en effet interdit de circuler, mais aussi de téléphoner, d'utiliser Internet ou d'envoyer des SMS. Cela n'a pas empêché une forte mobilisation des électeurs qui s'étaient massivement inscrits sur les listes électorales en début d'année, notamment des jeunes très nombreux dans les bureaux de vote, comme a pu le constater Florence Maurice.
Carte d'électeur en main, sourire aux lèvres sous la chaleur, Karl vient de trouver son nom sur les listes électorales.
Je suis vraiment très heureux de venir voter mon candidat. Avant, je ne votais pas parce que les votes se passaient toujours dans la fraude. Mais aujourd'hui, nous les jeunes, on s'est mis debout, on a dit non à la corruption. Le Congo nous appartient, nous sommes des enfants du pays et nous sommes là pour voter.
Exocine, 27 ans, était aussi resté chez lui lors du référendum d'octobre dernier, tout comme en 2002 pour la présidentielle. Mais cette fois, il a décidé de voter car il veut croire que ce scrutin est plus ouvert que les précédents.
Avant, en face, il n'avait pas d'adversaire. Et aujourd'hui, on constate que les gens, les jeunes surtout, ne veulent pas se laisser faire.
Ne pas se laisser faire, c'est aussi l'avis de ce jeune étudiant.
Jadis, les jeunes ne s'intéressaient pas vraiment aux élections. Pour eux, ils se disaient que c'était une affaire des grandes personnes. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise a compris que quand on parle des élections dans le pays, le droit revient à tout le monde d'y participer, le devoir revient à tout le monde de voter. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous sentez qu'il y a une mobilisation de la part des jeunes pour voter le candidat de leur choix.
Et quel que soit ce candidat, tous espèrent que le vainqueur du scrutin saura répondre à leur principale préoccupation, trouver des emplois.
Jeudi matin, la commission électorale indépendante a malgré tout proclamé le président sortant, Denis Sassou Nguesso, vainqueur avec un peu plus de 60% des voix. Un score que l'opposition conteste, notamment le général Mokoko, qui réclame un recomptage des voix sous supervision internationale. En tout cas, ce super dimanche électoral en Afrique francophone a été observé de près par les politologues, d'autant que 16 scrutins présidentiels sont prévus cette année au sud du Sahara. Une vivacité démocratique que souligne le journaliste et enseignant en politique africaine Francis Patindé.
Depuis les années 1990, on vote de plus en plus, quasiment de façon frénétique en Afrique. Et on vote généralement à date échue, ce qui est nouveau. Lorsque le scrutin se déroule de manière transparente, les surprises ne sont pas rares. Ce dimanche, on a eu un scrutin acceptable au Bénin, une élection singulière au Niger et un scrutin calamiteux au Congo-Brazzaville. D'abord, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, on descendait dans les rues pour demander le respect des franchises universitaires, le paiement des arriérés de salaire. L'élément nouveau aujourd'hui, c'est que les jeunes demandent le respect de la Constitution. Et avant, leurs prédécesseurs voulaient, eux, changer la Constitution. Ils voulaient changer les constitutions. Et les nouveaux se battent pour le respect de ces constitutions. Le fait est inédit, il est totalement nouveau en Afrique. Et donc, je pense qu'il faut respecter la voix de ces jeunesses. Cette jeunesse est en phase avec le reste du monde. Et elle est connectée. Et elle est adepte des réseaux sociaux et tout, ils ont les yeux rivés sur le reste du monde. Donc ils veulent vivre comme le reste du monde. Ils veulent vivre, être heureux, rester au pays et non pas emprunter les pirogues pour aller en Occident, comme on le voit souvent. Ils veulent rester au pays, mais libre et prospère, c'est tout.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, vous connaissez bien l'Afrique. Vous avez notamment enquêté au plus près de la secte Boko Haram aux confins du Niger, du Cameroun et du Tchad. Partagez-vous l'optimisme que l'on vient d'entendre ?
D'une certaine mesure, oui, dans le sens où là, on voit effectivement une pléthore d'élections en Afrique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que n'oublions pas qu'il y a eu aussi des élections en Centrafrique, qui est quand même un pays en très très mauvais état. Donc on avait aussi le Niger, on avait le Bénin. Et ce qui est frappant, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y avait un candidat perçu comme étant le candidat de la France, ça l'a plutôt desservi. Donc Zinsou a perdu au Bénin. Martin Zigele, qui était en Centrafrique, était perçu comme l'homme du Parti Socialiste, parce que son parti est membre de l'Internationale Socialiste, a également été évacué. Dès le premier tour. Kotra Issoufou, qui est moqué sous le nom de Charlie Issoufou, précisément parce qu'il était venu défiler ici à Paris, puis qu'il avait eu des paroles en disant « je suis Charlie », et ce dans un pays musulman, a également pâti de cette relation forte avec la France, qui soutient militairement et économiquement la République du Niger. Donc il y a là aussi, si vous voulez, un signal d'un rejet de la France-Afrique, qui d'ailleurs, dans le cas du Bénin, a voté pour des hommes d'affaires qui sont, selon certains, peu scrupuleux. Il y y a de nombreuses tâches qui circulent sur les carrières des uns et des autres. Et d'ailleurs, le Bénin n'est pas unique dans cette histoire, puisque au cours des années 90, quand l'Afrique est sortie des régimes de partis uniques et des présidents sa vie, le Bénin avait déjà trouvé le moyen d'élire démocratiquement son ancien dictateur, Mathieu Kérékou, celui qu'on surnommait le caméléon. Donc c'est pas la première dans l'histoire du Bénin à cet égard, et ça montre que le jeu démocratique peut effectivement aboutir à des résultats parfois un petit peu surprenants, en tout cas vu de Paris.
Et est-ce que ce jeu démocratique a été favorisé par exemple par l'action d'une ONG comme Transparency International ?
Alors, les ONG peuvent parfois jouer un rôle sur la validation de la légitimité du processus électoral. Alors, Transparency International est plutôt sur la question de la corruption. Maintenant, vous avez énormément d'organisations gouvernementales qui s'occupent effectivement du suivi des élections. Alors, soit des organisations gouvernementales comme l'Union européenne qui envoient des électeurs. Et là, on voit bien ce que ça a donné sur le cas du Congo-Brazzaville, où là, effectivement, il y a peu d'espoir sur la qualité du suffrage et des résultats qui viennent d'être déclarés. Donc là, ces ONG peuvent jouer un rôle à la fois avant l'élection pour préparer les électeurs et veiller à ce que le dispositif soit correctement mis en place, et puis également sur la déclaration des résultats.
Sont-elles bien acceptées sur place ?
Alors, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui les voient effectivement comme, quand ça dérange leurs intérêts, eh bien la classe politique africaine va s'insurger contre l'intrusion de ces ONG, force de l'étranger, etc. Et puis effectivement, il y a d'autres secteurs de la société dite civile, ce qui est aussi d'ailleurs un mot qu'on utilise souvent en Afrique et qui est aussi une construction rhétorique du monde des ONG, la société civile. Il y a effectivement des segments de la population qui, eux, au contraire, soutiennent le travail des ONG, qui finalement permettent de relayer les efforts locaux qui peuvent être menés pour essayer de s'assurer que les processus électoraux sont correctement menés.
Une information importante pour les auditeurs de RFI en Afrique. Ce soir à 21h30, temps universel, le Club RFI diffusera une émission spéciale Prix Stéphane Hessel de la jeune écriture francophone, enregistrée au Salon du Livre de Paris. Éric Amiens reçoit les deux jeunes lauréats du prix, Léonce Jésus-Emmanuel Dax, 23 ans, originaire de Côte d'Ivoire, pour son livre Les Autres, et Arthur Ulrich Biloa, 23 ans également, du Cameroun, distingué pour La Légende des Étoiles. Le Club RFI, ce soir, 21h30, temps universel. Nous allons maintenant au Sénégal, où le référendum sur le projet de révision de la Constitution a été approuvé par 62% des électeurs. Ce projet en 15 points propose notamment de ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, de le limiter à 2 mandats successifs et d'accorder de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée nationale. Mais ce résultat positif doit aussi se lire à travers une très faible participation. Moins de 40% des électeurs se sont rendus aux urnes. Guillaume Thibault, à Dakar.
Voici les résultats du référendum du 20 mars.
62,7% pour le oui, 33,3% pour le non, taux de participation 38,26%. Voilà. Présent au sein de la commission de recensement des votes, Mbaye Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, cadre du parti présidentiel, salue la grande victoire du oui.
Ici, c'est comme si c'était une élection présidentielle et le camp du oui a gagné de très loin par le bilan du président Macky Sall.
Dans le camp du non, c'est Sagar Diouf Traoré qui siège au sein de cette commission. Elle estime que le taux de participation est faible et que cela indique un rejet de la réforme proposée par Macky Sall.
Il n'y a aucune déception de notre part. Si vous regardez par exemple le taux de participation, moins de 40%, la population n'a pas porté son adhésion au projet du président Macky Sall.
Le camp du oui estime que ce taux de participation est faible car 1,5 million d'électeurs, il y a 5,5 millions d'inscrits, n'ont pas voté depuis 2005. Une réflexion est d'ailleurs lancée pour revoir le fichier électoral. Quoi qu'il en soit, les appels au dialogue avec l'opposition se multiplient. Mbaye Ndiaye a lancé le sien.
Le président de la République est un homme prêt au dialogue pour envisager ensemble la mise en œuvre de ces 15 points.
Dans le camp du non, les partis politiques et la société civile n'ont pour le moment pas répondu à cet appel du pied du président Macky Sall.
Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, décision de la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre, puis vice-président de la République démocratique du Congo, est visé pour des exactions commises par ses milices en Centrafrique voisine entre 2002 et 2003. La sentence ne sera connue que dans plusieurs semaines, Laura Martel.
La Chambre déclare M. Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Pourtant, Jean-Pierre Bemba n'a pas perpétré ou même ordonné les viols, meurtres et pillages pour lesquels il est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il était d'ailleurs essentiellement basé en RDC pendant que ses troupes commettaient ces exactions en Centrafrique. Mais pour la première fois dans l'histoire de la CPI, la Chambre l'a condamné en tant que commandant militaire. Fadi El Abdallah, porte-parole de la CPI.
Ce qui est important dans cet article-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer que la personne a donné les ordres de commettre les crimes, mais il suffit que cette personne a eu le contrôle effectif sur ses troupes, a eu ou devait avoir la connaissance de la commission des crimes, n'a pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou pour les sanctionner, et que donc les juges ont considéré que la commission des crimes résultait de ce manquement-là.
Autre inédit, Jean-Pierre Bemba est le premier accusé de la CPI condamné pour viol. Pour la procureure Fatou Bensouda, cette décision souligne la nécessité absolue de mettre un terme aux crimes sexuels et à caractère sexiste utilisés comme armes de guerre. Mais ce verdict emblématique n'est pas encore définitif. La défense a 30 jours pour interjeter appel.
Une réaction à cette, non pas sentence, mais à ce...
Ce verdict de culpabilité. Absolument. Oui, il y a eu une avancée, si vous voulez, au niveau de la Cour pénale internationale. C'est même presque une première. C'est-à-dire que la défense de Bemba, ça avait été de dire, bon, il y a eu des dérapages, mais c'est classique dans les guerres civiles, et c'est pas moi qui avais donné les ordres. Et là, on dit, bah, écoutez, il y a quand même une chaîne de commandement, cher monsieur, vous êtes responsable des exactions que commettent des hommes, même si vous leur avez pas donné l'ordre. Et ça, ça a des implications absolument énormes. Y compris sur des chefs d'État à la tête d'armée, l'armée nigériane qui commet des exactions, et puis les autorités qui disent « bah écoutez, nous on savait pas, on n'a pas donné ces ordres ». Donc là vous voyez un peu les implications énormes que peut avoir ce genre de verdict, y compris sur des chefs d'État en exercice qui désormais vont être tenus de responsables d'exactions qui n'auraient été pas menées sous leurs ordres.
Une semaine d'actualité.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, parlons de votre livre « Pour un développement humanitaire ». Alors ce n'est pas une affirmation puisqu'il y a un point d'interrogation après « humanitaire ». Pourquoi ?
Oui, parce qu'il y a un débat récurrent aussi qui oppose le développement à l'humanitaire qui serait réduit à l'urgence. Mais il se trouve qu'il n'y a pas d'accord de consensus mondial pour définir précisément ce qu'est le développement ou l'humanitaire ou une ONG à but non lucratif. La vision de la philanthropie par les Saoudiens est un peu différente de celle des Norvégiens, pour le dire simplement. Donc effectivement, des gens qui opposent les deux, le développement contre l'humanitaire qui serait uniquement de l'urgence, mais on a beaucoup de mal à délimiter les deux. Puis il y a des gens qui vous disent au contraire, l'humanitaire c'est une démarche, c'est une geste philanthropique, à l'intérieur de laquelle il y a des acteurs qui se revendiquent eux comme étant plutôt engagés sur le long terme et sur le développement. Et donc le développement ne serait jamais qu'une branche de l'humanitaire, et d'autres vous disent c'est l'inverse, l'humanitaire est une branche d'urgence du développement.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un marché de l'humanitaire ?
Oui, c'est-à-dire que la professionnalisation, il y avait une demande de professionnalisation, et là aussi il n'y a pas d'accord non plus. Est-ce que cette demande venait des ONG pour lever davantage de fonds, ou bien des bailleurs de fonds pour effectivement avoir des sous-traitants qui soient plus efficaces? Quoi qu'il en soit, cette professionnalisation a effectivement abouti à construire une sorte d'industrie de l'aide, hein. Certains parlent d'industrie, avec donc des employés salariés, il y a même certaines ONG où vous avez le droit d'avoir des syndicats, vous êtes syndiqué quand vous travaillez pour ces ONG, etc.
C'est un marché,
rapprochement du monde de l'entreprise.
C'est un marché dominé par les ONG occidentales ?
Alors, il est dominé, mais alors ça, c'est une autre évolution forte, c'est qu'effectivement, on voit maintenant éclore beaucoup d'ONG, alors parfois locales dans les pays en développement, mais vous avez maintenant des associations de solidarité internationale dans les pays en développement qui travaillent dans d'autres pays en développement, ou même certaines qui ont des velléités à travailler dans les pays développés. Donc il y a toute l'émergence d'ONG islamiques, saoudiennes, koweïtiennes, qui effectivement travaillent beaucoup en Afrique. Et puis vous avez, alors il y a une ONG très connue, par exemple au Bangladesh, qui s'appelle le BRAC, qui travaille aussi en Afghanistan, qui a des velléités à travailler également en Afrique. Donc on voit que les rapports de force nord-sud, hein, dans l'entendement du mot ONG, on voit une ONG occidentale du nord qui va travailler au sud et puis aider les pauvres petits Africains en train de mourir de faim. On voit que ça aussi c'est en train d'évoluer, si vous voulez. Vous avez également un phénomène ONG qui s'affirme dans les pays du Sud, pour travailler dans les pays du Sud, et peut-être aussi demain, pourquoi pas, dans les pays du Nord.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Est-ce qu'il y a certaines d'entre elles qui peuvent revenir, par exemple, en Europe?
Ça avait créé un choc quand il y avait des fondations qatari qui avaient dit qu'elles allaient financer, donner des microcrédits à des jeunes de banlieue en France, à Paris, pour les aider à monter leurs propres entreprises, parce que les banlieues françaises étaient pauvres.
Cela dit, il y avait peut-être une idée derrière la tête pour ces ONG qui visaient un public particulier, en quelque sorte. quelque sorte.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les ONG du Nord, on les suspecte aussi toujours d'avoir une idée derrière la tête. Convertir, alors soit convertir aux valeurs du marché et au modèle libéral, soit convertir à la chrétienté autrefois. Donc vous avez toujours un décryptage de l'action de l'ONG comme relevant d'un agenda caché et politique.
Diriez-vous que les ONG sont victimes de leur succès aujourd'hui ?
Alors, en quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en visibilité du monde des ONG qui est beaucoup plus forte. Hein. Elles occupent davantage l'espace médiatique. Le fait que les ONG interagissent avec les médias, ça, c'est pas du tout nouveau. Mais effectivement, aujourd'hui, on accorde beaucoup de temps de parole aux ONG. On arrive même à voir dans certains quotidiens des articles qui sont complètement écrits par des gens qui viennent du monde des ONG. Ça peut arriver quelquefois. Donc, elles sont en quelque sorte victimes de leur succès, parce que plus vous êtes visible, plus vous êtes sujet à la critique, bien entendu. On ne doit pas critiquer un acteur qu'on ignore et qui n'a aucun intérêt, aucune importance et aucun impact. De même qu'on va critiquer les gouvernements les plus puissants, au premier rang desquels les Américains. Voilà, c'est aussi une rançon de la gloire, en quelque sorte.
Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos, politiste, directeur de recherche au Centre Population et Développement de l'IRD. Je renvoie donc à votre livre « Pour un développement humanitaire » avec un point d'interrogation, publié aux éditions IRD, un ouvrage d'actualité sur les ONG et associations de solidarité internationale. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.